Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Petites Transmissions, le podcast à destination des professionnels et des familles. Je m'appelle Lika Sarr, je suis formatrice petite enfance et avec les crèches et écoles Montessori et les Petites Canailles, nous vous proposons des épisodes qui abordent en toute transparence les sujets du quotidien de nos métiers. Aujourd'hui, je reçois Cédric Gorin. Cédric est infirmier puériculteur et directeur dans une crèche municipale dans le sud de la France. J'ai rencontré Cédric lors d'une formation que je proposais à une partie de son équipe l'été dernier et j'ai été frappée par l'ambiance particulièrement agréable dans la structure et aussi par sa relation à la fois proche et dynamisante auprès de ses collègues. En discutant avec Cédric, j'ai découvert un personnage passionnant, animé par une énergie incroyable et un souci du détail, vous allez le voir, très précis lorsqu'il s'agit de fidéliser et de valoriser une équipe de professionnels de la petite enfance. Cet épisode frais et digne d'une masterclass vous parlera sûrement. Il me conforte dans l'idée que beaucoup de managers dans nos métiers sont des pépites et que les équipes sont bien souvent à leur image. Je vous souhaite un très bel épisode en compagnie de Cédric. Bonjour Cédric.
Bonjour Lika.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de pouvoir m'entretenir avec toi. Ça va être un entretien officiel autour du sujet, mais on a eu l'occasion déjà à quelques reprises. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de comprendre un petit peu tes leviers, ta recette magique pour pouvoir manager ton équipe de cette si belle façon. Pour prévenir les auditeurs, donc j'ai eu la belle opportunité de venir faire une formation dans la structure où Cédric est directeur cet été. Et comme je te le disais juste avant, j'ai ressenti quelque chose de particulier dans l'ambiance, dans le dynamisme, dans l'investissement des équipes, même dans leur attention, et qui s'est confirmé quand tu m'as expliqué, mais tu vas nous en parler, que finalement, tu n'avais pas tant de mal que ça pour le recrutement et que la fidélisation était plutôt étonnante par rapport déjà à ton secteur géographique et puis par rapport à ce qu'on connaît du secteur de la petite enfance aujourd'hui. Donc du coup, comme une évidence, je me suis dit, je prépare la saison 3 du podcast des petites transmissions, j'adorerais pouvoir échanger avec toi et comme je le disais, presque d'une façon qu'on pourrait proposer une masterclass, mais en tout cas un échange et d'en savoir un petit peu plus. Et donc, mon intention, c'est vraiment d'explorer avec curiosité ta vision, tes valeurs et puis plus précisément les actions que tu peux mettre en place au quotidien.
Ok.
Super. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Cédric, de la façon dont tu souhaites, peut-être en donnant quelques précisions sur ton parcours et ce qui t'emmène à avoir cette aura, cette façon d'être.
Du coup, je suis Cédric, Cédric Gorin. Du coup, je vis dans le sud de la France. Et ce qui m'a amené du coup au management de crèche, c'est un parcours un petit peu particulier. Moi, j'ai commencé d'abord par des études de langue et finalement, je ne m'y retrouvais pas du tout. Donc, je me suis réorienté complètement. Et en parallèle de mes études, je faisais de l'animation. Donc, j'étais animateur, puis directeur de centre d'accueil de loisirs. Quand j'ai passé mon diplôme d'infirmier, c'était évidemment pour évoluer vers le métier de puériculteur et d'être directeur de crèche.
Tu dis évidemment, mais je t'arrête. Pourquoi évidemment? Pourquoi évidemment?
Parce que je ne voulais pas travailler à l'hôpital. Je ne voulais pas travailler avec l'adulte. C'était important pour moi d'évoluer rapidement pour pouvoir me spécialiser et me professionnaliser même, je dirais, pour atteindre un poste qui me plaisait.
Oui, ça n'a pas été trop long, du coup, les 3 ans et demi d'études, parce que c'est vrai qu'en études d'infirmier, d'infirmière, moi, je suis passée par là, il y a tellement peu de sujets et de thèmes, et même de modules et de stages en lien avec la pédiatrie, que ça peut paraître quand même long, non?
C'était à certains moments un petit peu long, certains stages étaient un petit peu incompréhensifs pour moi par rapport au parcours que j'envisageais.
Oui.
Mais les cadres m'ont quand même aidé à y trouver du sens. Donc, en m'aidant à faire le parallèle avec mon projet professionnel et ce que je pouvais en retirer dans mes différents stages. Donc, c'est vrai que j'ai eu de la chance quand même d'être accompagné positivement et ensuite de prendre un poste en pédiatrie, du coup, dans un premier
Oui.
temps, sur mon lieu où j'avais fait mon diplôme d'État.
D'accord. T'as enchaîné infirmier et puère dans la
Non,
foulée?
j'ai fait
Yeah.
une petite année
Pédiatrie clinique.
d'expérience professionnelle, ouais, juste une année, dans un service que moi j'appelais la colo à l'hôpital parce que du coup j'avais l'impression d'être encore animateur et de faire des soins puisque du coup j'avais la possibilité de mener des activités, d'emmener les enfants en sortie, d'emmener les enfants en vacances. C'était un service de rééducation pédiatrique. Donc
D'accord.
du coup c'était du long séjour et ça permettait de créer une autre dynamique que d'être que dans le soin et. Du coup, cette dynamique qui m'habite un petit peu de faire de mon travail un lieu de vie plutôt qu'un lieu d'activité professionnelle. Donc, c'est un peu ce qui habite aussi mon cheminement vers le management et du coup de garder ma profession, on va dire, dans laquelle j'ai baigné au tout début, donc l'animation, que je garde au quotidien. Finalement, j'exerce ma profession en tant qu'animateur. Pour moi, tout est animation dans le quotidien et avec mes équipes, tout est animation, tout est jeu, depuis le recrutement jusqu'à la phase opérationnelle. Ben, je te détaillerai certainement au fur et à mesure, mais c'est vrai que ce volet animation est pour moi très important.
Et tu vois, derrière animation, parfois, on peut placer une connotation un peu négative ou péjorative, tu vois. Mais de ce que j'entends et de ce que je lis clairement dans la relation, c'est vraiment cette connexion, ce dynamisme, cette marche en avant, tu vois, enfin vraiment d'élan en avant. Et c'est vraiment le vrai sens de l'animation, quoi, d'animer
Donc,
une chose.
donner vie,
Ouais.
d'animer un quotidien, de faire des projets, d'avancer en
Oui.
équipe et pas forcément quelque chose de très pyramidal où il y a quelqu'un qui décide de tout. C'est important pour moi d'être avec mon équipe et d'animer
Oui.
cette équipe. Voilà.
Oui.
Depuis le café du matin jusqu'au au revoir du soir, tout
Mais
est un
oui.
temps pour
Oui.
moi pour animer. Voilà.
Oui. C'est comme si tu avais eu la preuve par ton expérience dans l'animation que cette bonne relation, cette façon de donner vie à la relation avait des conséquences de toute façon positives dans la co-création, finalement.
Mais on y retrouve du sens et même mes équipes me disent, il n'y a pas une réunion qui se ressemble et on se dit toujours quand on arrive, qu'est-ce que Cédric nous a préparé aujourd'hui? C'est quelque chose d'important pour moi aussi de toujours faire de la nouveauté.
Ouais.
Même si parfois on a peur de déstabiliser, je crois que des fois, par une petite expérience aussi que j'ai eue en maison d'enfants à caractère social, et de se dire que des fois, il faut un peu déstabiliser pour relancer une dynamique plus positive.
Oui. Et en même temps, tu dis ça, mais je suis sûre que c'est quand même dans un cadre sécure et dans lequel les personnes peuvent se repérer. Enfin, tu vois, je crois que cette créativité, cette spontanéité, elle est d'autant mieux acceptée qu'elle est confiée, en tout cas qu'elle est proposée dans un cadre fixe quand même.
Effectivement, il y a toujours une trame identique à chaque début de réunion, fin de réunion, un corps de réunion qui est toujours identique, ma trame de recrutement est identique, etc.
Oui, oui.
Il y a quand même un travail
De structure.
de sécurisation et de structure.
Oui.
Mais après, sur la forme, j'ai une liberté sur comment je donne vie, comment j'anime, et surtout depuis pas mal d'années maintenant, comment je délègue, puisque du coup, mon souhait à moi, c'est de
Oui.
valoriser les compétences individuelles. Et pas forcément à me mettre moi sur quelque chose d'important. Au contraire, plus je
Oui.
m'efface, plus je suis fier de mon équipe.
Ouais, et ça, c'est une qualité, en tout cas, de pouvoir lâcher prise, en tout cas, de pouvoir relâcher et d'arrêter de penser que c'est dans la maîtrise et dans le contrôle absolu qu'on arrive à libérer et à créer, quoi. Oui.
Oui. Ce qui est important, effectivement, pour moi, c'est de pouvoir accompagner tout le monde à sa mission et je le fais depuis l'apprentissage, parce qu'on accueille des apprentis ou des
Ouais.
alternants, et
Oui.
jusqu'aux stagiaires et même plus loin après sur mes agents que je recrute, pouvoir me dire, un peu comme, je vois un peu mon équipe comme une famille et de se dire, bah, en fait, notre rôle de directeur ou notre rôle de parent, c'est d'amener à nos enfants à être autonomes et à se débrouiller tout seuls. Et bah, mon rôle de directeur, je le vois un peu comme ça aussi, de dire, bah,
C'est vrai.
c'est ma grande famille professionnelle et si je peux tous les amener à
Oui.
ne plus avoir besoin de moi, bah,
C'est vrai. Et en fait, ce qu'on a tendance à oublier, effectivement, ben, c'est ce parallèle qu'on peut évidemment faire. Et aussi se rappeler que pour explorer, tout humain a besoin d'être sécurisé, d'être en lien, d'être dans une relation, ouais, sécure, quoi. Enfin, tu vois, fiable. Oui. C'est probablement ce que tu leur offres. Oui.
elles ont besoin de proximité, du coup, il faut
Oui.
absolument que je ne sois pas un directeur de bureau, mais un directeur de terrain, que je sois à proximité de nos équipes et que ma présence ne soit pas évaluatrice, mais plutôt une présence accompagnante.
Accompagnante, encourageante. Oui. Ouais. Oui, mais après, tu vois, je pense que. Parce que finalement, tu as cette posture. Enfin, à la finalité, tu as quand même un regard évaluateur, dans le sens où tu as une idée d'un résultat. Mais je pense que finalement, c'est de se dire, en posant, voilà, en posant tous les ingrédients, a priori, ça prend, quoi. C'est de faire confiance au processus, justement. Et de se dire, si je pose les choses, a priori, ça vient.
On a le droit de se rater et après tout,
Et c'est
les
ça.
agents ont le droit de se
Bien
rater et
sûr.
au contraire, ben, plutôt que de leur appliquer complètement leur faute, je me demande aussi ben, quelle est ma part de responsabilité dans cet échec.
Bien
C'est
sûr.
important de le faire et de rester humble aussi sur ben, qu'est-ce que j'ai pas réussi à transmettre
C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et tu vois, comme j'en discutais encore tout à l'heure avec des collègues, c'est de pouvoir manager le bon sens. Enfin, comment tu fais une question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour manager le bon sens? Parce que ce qu'on cherche, mais tu l'as dit au début, c'est manager l'autonomie. Enfin, tu vois, que chacun puisse se sentir suffisamment ancré pour faire preuve à son tour de bon sens, de créativité, d'expérience, etc. Ouais.
C'est vrai qu'en tant que professionnel de la petite enfance, on arrive à le faire. On se dit, les enfants ont des besoins, je les identifie, je les observe. Ben, moi, je fais pareil avec mes professionnels.
Oui.
Et je me dis, ben, qui elle est, d'où elle vient, de quoi elle a besoin pour être épanouie dans soi
Oui.
professionnellement. Et à partir du moment où j'ai identifié ben, le profil, on va dire, ben, j'œuvre pour que cette professionnelle elle puisse mettre à disposition, en tout cas, tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse évoluer dans son cadre de sécurité aussi,
Dans
parce qu'il
son
ne faut pas
cadre de
non plus
sécurité. Oui.
trop les faire sortir dans un premier temps. Après, j'avouerai que je les pousse quand même à aller au-delà de certaines zones de confort.
Oui, complètement. Mais tu vois, je le vois bien. Et puis, dans un prochain épisode, j'ai proposé à Magali de venir à mon micro. Magali, qui est une auxiliaire de puériculture, qui fait partie de ton équipe. Et je pense vraiment, et tu vas nous en parler, dans cette façon que tu as délégué certaines responsabilités, eh ben, d'emblée, étant donné surtout que ce n'est pas habituel, tu vois, on a tendance Oui, je vois qu'on a encore du mal à déléguer certaines responsabilités, même si, comme si c'était uniquement pour des directeurs ou des directrices adjoints ou autres. Et finalement, ça les sort de la zone de confort, mais parce qu'elles sont dans ce cadre de sécurité et que finalement, tu leur proposes pas ça pour les piéger, mais bien pour les valoriser, eh ben, elles se lâchent, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, peut-être, si tu as une forme de process, en tout cas les différentes étapes, ce qui te semble important, déjà, peut-être pour prendre le démarrage dans les tout premiers temps d'accueil, comment ça se passe quand tu as un premier contact avec un candidat, une candidate?
Alors, dès les premiers contacts, du coup, le premier contact, lui, se fait par essentiellement CV, lettre de motivation. Donc, c'est un filtre, on va dire, que
Oui.
j'ai de pouvoir lire ce CV, cette lettre de motivation sur des mots-clés qui vont retenir mon attention, notamment sur toute la partie ouverture. Qu'est-ce que je fais à l'extérieur? Qu'est-ce qui m'anime? Une partie peut-être qu'on laisse peut-être ou qu'on rédige peut-être mal des fois dans une lettre de motivation ou dans un CV. Ça va être toute la partie loisirs, hobbies,
Vous avez
activités extérieures. Là, et la façon aussi de présenter ses compétences, de pas forcément aller sur de l'attendu. Et du coup, voilà, c'est des CV qui vont retenir mon attention. Donc, après, si malheureusement, j'ai du standard, je prends aussi les CV standards, puisque après, il faut aussi faire avec les candidats qu'on reçoit. Mais du coup, voilà, je fais un pré-tri sur CV lettre de motivation. Les candidats que je regarde, je les contacte et je leur propose de venir à une session, une commission, ce que l'on appelle nous une commission de recrutement, donc ils sont plusieurs à se présenter. Et lors de cette commission, finalement, comme je le disais, pour moi, tout est jeu. Et on va jouer pendant cette commission de recrutement. Donc, il va y avoir un jeu avec un dé. Sur le dé, il y a des questions qui ressembleraient peut-être à des questions d'entretien, mais finalement, comme c'est les candidats qui lancent le dé, qui répondent aux
Oui,
questions,
c'est
il y a
génial.
quelque chose de moins formel et du coup, c'est un peu plus spontané. Alors que pour autant, on va parler des formations qu'ils aimeraient faire, de ce qu'ils comptent apporter à l'équipe, de leur plus grande peur professionnelle, des choses comme ça, pour pouvoir un peu cibler déjà qui sont ces personnes et comment moi je vais pouvoir les accompagner, mais aussi en lien avec mon équipe, parce que je demande à mon équipe quel professionnel, quelles compétences ils manqueraient à leur équipe pour pouvoir constituer leur groupe. Donc ça, c'est important pour moi aussi d'avoir leur retour et de dire, moi j'aimerais que quelqu'un joue de la guitare ou quelqu'un qui soit fort en chant parce que dans notre équipe, on a un petit peu du mal à le faire, des choses comme ça. Donc, c'est à moi aussi d'avoir ça en tête. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est un photolangage. Donc, on met plusieurs images qui représentent des situations professionnelles ou plus vie privée sur le confort, quel type de confort je recherche. Ça permet d'échanger avec les candidats sur comment ils sont confortables au travail, comment est-ce qu'ils gèrent les pleurs de l'enfant, comment est-ce qu'ils gèrent la relation à la famille. Voilà, c'est un peu comment est-ce que je positionne un ressort de photos. Et après, il y a une situation tirée au sort. Généralement, la situation, c'est toujours en lien avec les devoirs de réserve, la discrétion professionnelle et les valeurs du service public. On essaye de faire une situation qui les implique un petit peu, comment est-ce qu'ils se positionnent. Et à l'issue de ça, finalement, on laisse le candidat aussi nous faire un résumé de ce qu'il a retenu de son entretien.
Mais en
C'est
fait,
la
ça,
partie
ouais.
qui entretien pour moi.
De premier entretien. Et ça monte déjà, ça impose la note, quoi. Enfin, tu vois, on s'attend un peu à ce que ce soit sur ce ton-là, en tout cas, de cette expérience professionnelle qui nous attend. Et moi, je trouve qu'au-delà d'aller chercher les réponses, ça permet au candidat de déjà imaginer qu'on va se poser de cette manière-là, c'est que les questions. Tu vois? Ouais. Sur ce ton-là, hein, tu vois, à la fois de profondeur et de légèreté. Hein, tu vois, il y a un truc.
C'est ça, ouais. C'est notre souhait en équipe de direction, c'est qu'effectivement, on ne soit pas sur quelque chose de lourd et qui va un petit peu mettre le candidat dans quelque chose de pas forcément sincère, alors que à travers le jeu, ça détend un petit peu l'atmosphère. On sent qu'il y a un lâcher-prise un petit peu qui se fait et quelque chose qui est de l'ordre de plus de la confidence finalement sur qui je suis en tant que professionnel, plutôt que de venir réciter des attendus.
C'est
Qu'on pourrait
vrai.
retrouver dans n'importe quel poste, finalement aussi. Voilà, c'est un peu l'idée de cette façon de mener l'entretien. Et à l'entretien, nous, on est toujours deux membres de la crèche et il y a quand même un professionnel de l'ARH et un responsable de la ville. Et on se répartit un petit peu les appuis, on va dire, en fonction des réponses des candidats. On complète soit sur le volet RH en fonction de la question, soit sur le volet professionnel, soit sur le volet valeur du service public, puisque nous sommes une crèche municipale. Voilà, donc en fonction du profil qu'on a. Mais l'idée, ce n'est pas forcément d'être dans la question-réponse, c'est de compléter ce qui a été dit en précisant nos valeurs, notre mission, nos attendus de la ville. Parce que après tout, le candidat doit nous séduire, mais nous aussi, on doit
Bien
quand même
sûr.
séduire le candidat pour qu'il vienne travailler avec nous. Donc c'est aussi le jeu d'un entretien.
Et aussi qu'il ait l'impression de faire le choix de vous rejoindre, quoi, vraiment. Donc après, une fois qu'il y a ce premier filtre, je dirais, j'imagine que tu en as un autre. Enfin, comment ça se passe quand tu... Enfin, comment... Tu recrutes dès cette commission-là, tu as fait tes recrutements ou il y a une deuxième étape? Comment ça se passe?
Alors, du coup, à l'issue de cette première étape, on rédige un compte rendu de corruption donc, qui est transmis à l'autorité territoriale, donc le maire, avec un classement que nous souhaitons parmi les candidats retenus. Donc, le maire valide ou nous demande des compléments d'information. Généralement, il nous fait confiance et il valide le contenu. Et ensuite, du coup, il y a toute une étape où on échange encore avec les candidats sur notre projet de travail, notre façon de voir le travail dans les plus grandes lignes. Donc là, on va transmettre notre projet pédagogique, notre projet d'établissement. On va transmettre le guide des procédures internes, des petites choses plus formelles pour s'assurer aussi que le candidat est toujours OK avec son projet de venir rejoindre notre équipe. Donc ça, c'est la partie un petit peu intermédiaire. Et après, quand le candidat valide, il y a toute une préparation de l'équipe, du coup, qui se fait, nous, au sein de l'établissement, avec une carte postale de bienvenue qui va être apposée sur le casier, le nom écrit sur le casier. On envoie un document qui s'appelle le guide de l'onboarding, donc avec toute une présentation. Il y a un mot du maire, il y a un mot de l'élu dans le guide. Il y a l'essentiel de nos valeurs, de nos missions. Il y a toutes les étapes qui vont formaliser la prise de poste. Donc, le bilan à 15 jours, le bilan à un mois, qui va être le tuteur d'accompagnement pendant l'intérim.
Ouais, donc ça, c'est... Ouais.
Tous ces petits détails, voilà, qui, pour nous, ont de l'importance oui. Parce que c'est aussi se sentir accueilli dans votre équipe, dans un établissement. Pour pouvoir mettre en lien tout le monde et donc il y a la photo des équipes, qui en est, nos valeurs, qui nous aide au quotidien, voilà, des petits détails sur ce guide avec un échéancier sur aussi les perspectives d'évolution au sein de la collectivité. Puisque c'est aussi ça, le projet, c'est de conserver nos agents le plus longtemps possible et c'est un peu notre défi, donc c'est aussi de les accompagner le plus longtemps possible avec nous.
Oui, et alors cette. Nous en plus sur ce tutorat, c'est comme une référence finalement quand une nouvelle personne arrive. Et comment ça se passe concrètement?
Alors du coup, il y a donc une personne qui est référente en fonction du profil de la candidate. Donc pour les auxiliaires, généralement, c'est des éducateurs de jeunes enfants. Pour les puéricultrices, ça va être un puériculteur, une puéricultrice aussi. Donc suivant le profil du candidat, voilà, on accompagne au plus près. Donc, on va faire un premier jeu encore une fois à 15 jours. Donc, avec, il y a un système un peu de post-it qu'on a fait évoluer en petites cartes sur lesquelles on met les mots-clés qui sont issus de la charte d'accueil du jeune enfant, la charte de soutien à la parentalité, le projet d'établissement. Et on met deux pots à disposition avec un premier pot qui sert avec un hashtag à l'aise blaise. Et l'autre, hashtag accompagne-moi. Et les nouvelles recrues dispatchent dans les leurs petites cartes. Et ensuite, on récupère les petits pots. Et en fonction de ce qui est identifié comme besoin d'accompagnement, le tuteur va mettre en place des propositions d'accompagnement. Et pour tout ce qui est, maîtrisé, ou en tout cas susceptible d'être maîtrisé, on va questionner lors du premier entretien à 15 jours déjà comment est-ce que le candidat maîtrise ou pense maîtriser ces choses-là. Et ça permet de fixer des objectifs pour le premier entretien d'évaluation, puisque nous, on fait un premier entretien en cours de premier contrat, puisque le premier contrat, c'est 3 mois. Et donc, du coup, dès le premier mois, déjà, on fait un premier bilan pour se dire quels sont les potentiels d'évolution, quels sont les objectifs à atteindre. Et est-ce qu'on, si on a envie vraiment de poursuivre l'aventure ensemble ou est-ce que d'ores et déjà, on prétend qu'il va falloir trouver une autre chose?
Oui.
Notre souhait, c'est d'accompagner tout le monde à la réussite, bien évidemment, puisqu'on n'est pas là pour être
satisfait.
Après tout, même quand on est jeune diplômé, on a encore des choses à apprendre. Oui. Et tout le monde a des choses à apprendre, puisque nos éducateurs qui accompagnent apprennent aussi dans l'accompagnement des candidats, puisque ça les. Je les invite aussi à réfléchir à comment proposer des nouveautés et s'adapter au plus près des besoins du candidat, parce que tous sont différents, donc on n'a pas exactement le même accompagnement, les mêmes supports. On fait appel à la PNL quand on a besoin Ils ont des outils Discord pour pouvoir débloquer des petites choses ou sortir d'un mauvais a priori. Voilà, donc c'est des outils qu'on peut utiliser, qu'on pioche à droite à gauche par les formations en co-développement, les formations en PNL ou autres qui nous permettent d'utiliser tout ça. Voilà, et la formation des facilitateurs, du coup, puisque nos collègues sont formés à la posture de facilitateur pour justement accompagner.
Génial. Donc, effectivement, c'est beaucoup quand même. C'est plein de petits détails, mais qui peuvent, enfin, qui demandent beaucoup d'énergie. Mais ce que j'y vois, c'est que finalement, c'est quand même moins d'énergie que quand on doit passer son temps à recruter encore et encore. Tu vois, parce que, tu vois, je rencontre beaucoup de structures avec des turnovers assez importants. Je dis pas du tout que c'est lié à la difficulté de fidélisation. Il y a tout plein de raisons de turnover, mais c'est sûr que quand on prend autant de temps avec des rendez-vous organisés, animés d'une certaine façon, avec une proximité, avec une recherche finalement d'inclure même la nouvelle recrue dans son accompagnement, parce que quand tu dis les deux pots à lèse-blaise ou à, comment tu dis, c'est quoi le
Accompagne-moi, accompagne-moi.
accompagne-moi, et ben du coup ça le met acteur, responsable dans son chemin aussi, dans les objectifs, ben, ça va être en lien avec la lèse-blaise, j'imagine. Donc a priori c'est pas, il y a pas de piège, et donc c'est beaucoup beaucoup d'investissement, mais finalement rentabilisé, je dirais, avec beaucoup de chances de rentabilité.
C'est important d'avoir ces choses-là. Et puis, c'est vrai que souvent, le recrutement, il se fait aussi par le réseau, puisque du coup, en intervenant dans les écoles, aussi bien de puériculture que d'auxiliaire de puériculture, du coup, ça me permet de présenter déjà un petit peu ma façon de faire, puisque quand j'anime une formation, je suis aussi animateur encore. Donc, je
Bien
ne suis pas
sûr.
que ça pédagogique où je transmets un savoir, mais j'anime ce savoir, j'anime ces temps de transmission. Donc, les candidats savent aussi où ils mettent les pieds quand ils viennent jusqu'à nous.
Ce que tu me disais d'incroyable, c'est que finalement, oui, le recrutement, c'est pas quelque chose qui te met, enfin, pas d'énergie à trouver les gens viennent à toi, parce que finalement, c'est aussi par rapport à, quand je parlais d'aura tout à l'heure, c'est la façon dont tu vas pouvoir diffuser, communiquer, pour faire en sorte d'anticiper les besoins au fur et à mesure. Oui, complètement. Et alors, une fois qu'ils sont installés, donc moi, j'ai pu rencontrer essentiellement des professionnels en place depuis un bon moment. Enfin, il y avait une collègue qui était arrivée récemment, mais voilà, c'est des personnes qui sont en place. Et quels sont tes petits secrets? Quels sont tes outils pour pouvoir faire en sorte que leur quotidien professionnel se passe bien, qu'elle reste dynamique, impliquée et fidèle?
Bah, du coup, après avoir identifié aussi leurs appétences, leurs envies, leurs besoins en progression, etc., on les invite à collaborer avec nous autour d'appels à projets. Donc, on répond à pas mal d'appels à projets, et ce qui nous permet d'obtenir des financements pour pouvoir les accompagner sur des formations par des organismes spécialisés. Je pense à la danse, je pense à la lecture de poèmes, à d'autres choses un petit peu. Je ne vais pas dire innovante, mais en tout cas qui sortent un petit peu du quotidien classique d'une crèche, on va dire. Voilà, donc je les invite et je les implique très rapidement dans ces appels à projets pour qu'elles soient elles aussi actrices de cette méthodologie de projet, de cette dynamique-là et de se dire ben, OK, on a obtenu un financement, on communique largement dans la presse locale ou dans le journal. L'agile, on va dire, pour pouvoir se dire bah, toute cette énergie qu'on met à préparer des dossiers, bah, on le retrouve au quotidien et ça donne envie pour l'équipe parce que bah, grâce à ces appels à projets, on a pu aménager notre extérieur avec un jardin potager, avec un berger. Ça nous permet de nous doter en équipement spécialisé puisqu'on fait de l'accueil inclusif à handicap et insertion professionnelle. Donc, ça nous permet ben, voilà, de dynamiser tout ça et d'être une structure qui fonctionne avec à des finances qui sont quand même correctes, alors que dans d'autres endroits, on le sait, parfois c'est difficile. Ben, c'est vrai que ça demande de l'énergie, ces appels à projets, mais c'est une ressource essentielle, je pense, pour aussi permettre aux équipes de s'épanouir un petit peu au travail. Et parallèlement, ben, on fait les accompagnements au parcours VAE, puisqu'on propose à celles qui le souhaitent de participer du coup, à des commissions du coup, en interne. Donc, on organise nous-mêmes des commissions. On reçoit nos agents qui nous exposent leurs projets de validation d'acquis. Et on en retient deux par an, trois par an, ça dépend des années, pour bénéficier d'un accompagnement qui est pris en charge par la ville via des appels à projets ou autres pour pouvoir bah, leur, les accompagner à la réussite à cette validation d'acquisition.
Oui, oui.
Donc, on a plusieurs agents, du coup, aujourd'hui, on a une crèche qui est quasiment faite de professionnels diplômés puisqu'on nous reste aujourd'hui sur une équipe de 12 agents d'accueil collectif, en tout cas, seulement deux agents qui sont pas encore, qui sont qualifiés mais pas diplômés, mais qui vont bénéficier là puisqu'ils ont déposé leur candidature, donc un accompagnement prochain pour la VAE d'auxiliaire de puriculture, donc on aura une
oui.
équipe complète, et c'est vrai que bah, c'est quand même plutôt favorable aussi pour notre taux d'encadrement,
mais c'est beaucoup
pour notre organisation du quotidien, on réfléchit moins sur est-ce qu'on a le
Oui, et finalement, un poste qui s'ouvrirait, ça te laisse un champ beaucoup plus large pour le recrutement. Tu vois, des fois, c'est vrai, on peut être réduit à un certain diplôme, et quand on peut élargir les diplômes, les profils, les expériences, ça enrichit vraiment l'équipe. Oui. Et tu vois, ce que tu me dis, finalement, bon, je crois que l'équipe est un peu sur ce même... Dans ce même élan, je disais, j'ai reconnu une équipe très dynamique et on a tendance parfois à penser que ça va être plus facile dans la cohésion si on arrive à leur offrir un peu plus de répit et de tranquillité, pas trop les solliciter, les préserver, etc. Et finalement, ton discours, ça va complètement à l'inverse. Et pourtant, on peut voir tous les fruits que tu peux recueillir à la fin. Parce qu'elles sont ultra sollicitées, tu vois. Tu me disais, même pendant le Covid, tu les convoquais pour regarder des vidéos, réfléchir sur, autour de concepts pédagogiques, etc. Et je me dis, oh, mais même pendant le Covid, tu les as pas laissées tranquilles, mais elles ont redemandé, quoi. Enfin, c'était,
Oui. C'est vrai qu'effectivement, je maintiens aussi cette dynamique. C'est important pour moi de garder cette dynamique. Alors, peut-être parce que moi, j'en ai besoin aussi d'avoir mon cerveau, de donner à manger à mon cerveau. Un petit peu tout le temps, mais du coup, j'ai de la chance d'avoir une équipe qui est un peu à mon image, finalement. Du coup, ça me permet à moi de les solliciter et elles répondent présent quand elles ont besoin. Et quand j'ai besoin aussi, elles répondent à l'inverse. Elles savent m'accompagner, moi aussi, quand j'ai des besoins aussi, parce qu'après tout, dans un esprit d'équipe, on se soutient, que ce soit... de la direction vers l'équipe ou de l'équipe vers la direction. Donc, c'est vrai que c'est assez confortable de manager dans ces conditions-là.
C'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu des situations où peut-être cette configuration, cet esprit d'équipe n'a pas convenu et donc peut-être une personne qui a dû quitter l'équipe parce que pour elle, c'était trop dynamique, peut-être trop, hein, je ne sais pas.
Effectivement, on a eu quelques départs à la création de l'équipe qui était formée de nouvelles recrues qui avaient bénéficié de ces recrutements et d'anciens professionnels qui étaient déjà en place depuis de longues dates au sein de la collectivité. Et du coup, ces professionnels, progressivement, ont demandé leur changement de service puisqu'elles ne se retrouvaient pas forcément dans cette sollicitation, dans cette... façon de voir les choses, parce que du coup, tout en gardant cette proximité que j'ai moi avec mon équipe, je leur demande quand même de préserver une distance très professionnelle avec les administrés, avec les familles. Et là où j'exerce, c'est quand même une petite ville, quoi qu'on en dise. Et du coup, il y a une proximité qui s'installe et cette proximité, moi, je ne la souhaite pas du tout avec les familles. Je souhaite qu'il y ait quand même une distance qui soit très professionnelle et à respecter. Et du coup, voilà, c'est essentiellement sur ce point-là où la difficulté a été présente. Et sur l'idée aussi de la production d'activités, je ne suis pas un directeur qui demande une production. Et j'explique très rapidement aux parents que bah, ils n'auront pas de cadeau à la fête des mères, ils n'auront pas de cadeau de Noël, etc. C'est pas dans mon projet que moi, mes agents, elles ont beaucoup de choses à apporter à leurs enfants, mais elles ne sont pas là pour fabriquer
Pour
elles-mêmes des cadeaux
produire
pour les
plutôt.
parents, pour
Oui,
produire.
oui, oui,
Leurs enfants, ce n'est pas l'objet de la mission de la crèche, en tout cas.
oui.
Donc voilà. Donc parfois, bah, certains agents ont besoin d'être dans la créativité, dans ces choses-là, et du coup, de les retirer un petit peu de cette partie-là, ça frustre un peu
Ça peut
parfois.
frustrer, surtout quand elles ont connu ça et que ça les a confortées, voilà, pendant tant d'années. C'est sûr que ça peut être déstabilisant. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que finalement, tu as une vision pédagogique assez claire, enfin, que tu l'annonces, je pense, dès le démarrage, et ça se lit dans la façon dont les jeux sont organisés, enfin, les questions, les sujets, les thèmes qui sont quand même assez profonds et en lien avec les compétences de l'enfant, son développement, la posture, etc. Et c'est en ça que je disais que le cadre, finalement, il est plutôt clair. Et c'est à l'intérieur de ce cadre, c'est comme si ça posait quand même une condition du bien-être de l'enfant, du respect, etc. C'est dans ce cadre-là qu'on s'offre une certaine créativité, une certaine liberté. Oui, super. Est-ce que tu vois autre chose qui pourrait nous intéresser, Cédric, pour avoir un peu plus de tes filons par rapport à ce management, à ta posture, enfin, sur quoi tu voudrais peut-être finir? Ou conseiller, tu vois, si peut-être un manager qui prend. On a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast, et notamment des créateurs de crèches, tu vois, des futurs directeurs, des directrices souvent. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour une prise de poste quand on tâtonne, quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, quand on a tout plein d'idées, enfin voilà, peut-être une priorité, qu'est-ce que tu pourrais conseiller?
Bah moi, si je gardais une priorité quand même, c'est de faire confiance à son équipe aussi, puisqu'après tout, c'est vraiment important de pouvoir leur accorder une marge de manœuvre, parce qu'ils vont être aidants pour nous, surtout quand on arrive. Moi, je me souviens à mes débuts en crèche, j'avais une équipe de seconde maternelle qui avait largement tout l'âge d'être ma mère, et du coup, quand je suis arrivé, bah, finalement, elles m'ont beaucoup appris et beaucoup aidé au quotidien, et de se dire, bah, après tout, effectivement, d'être humble et de se dire, on ne peut pas tout maîtriser d'un coup. Et bah, petit à petit, on va y arriver. C'est la politique un peu des petits pas, ce que j'appelle. C'est de se dire, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Et pour moi, ce qui est important, c'est de sécuriser mon équipe. Et quelque chose d'autre qui est important pour moi, c'est vis-à-vis des familles. Et que l'accueil doit être inconditionnel et souriant et bienveillant tous les jours, tous les soirs, tout le temps. Et il y a un point important, c'est que mon équipe, elle salue toujours tout le monde avec bienveillance, avec un grand sourire. Et je pense que c'est important, c'est une grande partie de gagner. Et faire pareil avec nos agents tous les matins, c'est important pour moi d'aller faire le tour de toutes mes petites équipes. Pour prendre la température aussi, de savoir qui va bien, qui va moins bien, comment est-ce qu'on peut soutenir ceux qui vont moins bien. Donc, c'est prendre la température de son équipe au quotidien et pas rester dans son bureau et se rattacher à du dossier, à quelque chose
Oui, de
de
se cacher
tangible,
derrière des fois aussi,
et de se dire, ben, OK, ça, je maîtrise, c'est factuel, mais se dire, bah, se lâcher un petit peu et s'autoriser d'aller dans le relationnel. Et je pense que c'est quelque chose qui est primordial quand on débute, c'est de se dire, bah, je crée du lien avant d'apprendre à faire de la compta, quoi. Je pense que c'est important.
Super. Merci beaucoup, Cédric, parce que
Voilà.
c'était super agréable. Je pense que ça rend aussi honneur à tous les direct toutes les directrices, tous les directeurs qui, au quotidien, mettent beaucoup d'énergie pour manager des équipes de professionnels qui prennent soin des enfants, de la société de demain, en fait, hein, par l'intermédiaire de cet accompagnement des familles. Et c'est une grande responsabilité, hein, c'est vrai, et ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est un métier qui n'est pas toujours très valorisé, mais je crois qu'on contribue à le valoriser en observant de quelle manière ces petites initiatives, en tout cas, c'est pas petites, ces grandes initiatives permettent le bien-être de tous. Donc, je te remercie beaucoup, en tout cas,
d'avoir partagé tout ça avec nous.
Est-ce que, Cédric, pour finir, tu as une idée d'un invité, d'une invitée ou d'un thème qui pourrait être abordé dans le podcast des petites transmissions ?
Qui pourrait être proposé. Je ne sais pas si c'est une thématique qui a déjà été abordée. Je n'ai pas forcément eu le temps d'écouter tous les podcasts, mais il y a quelque chose de l'ordre du cercle de parents, de l'ordre du groupe de pères aidants. Finalement, que les professionnels n'ont pas tous les savoirs, mais que les parents ont beaucoup de savoir et d'expérience les uns entre eux et peuvent s'entraider en notre présence, mais pas forcément avec notre rôle de sachant professionnel, mais plus avec notre rôle de facilitateur.
Oui.
Et ce rôle-là de dire, je permets l'échange et l'entraide plutôt que de
je passe du savoir ou de...
Plutôt comment mobiliser, finalement, j'aime bien cette idée du groupe de cercle de parents. Alors, je l'appelle comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est une terminologie officielle, mais un groupe de pères, en fait.
Oui, oui.
Qui va naître.
La source de ce groupe-là. Et,
du groupe,
ouais. Oui, super. Je note le thème et je vais m'en inspirer. Je vais essayer de voir comment je peux organiser un échange autour de ça.
Ok.
Merci encore, Cédric.
Je te dis
à très bientôt.
À bientôt. Au revoir, Lucas.
Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider notre visibilité, partagez au maximum vos épisodes préférés autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt pour de nouvelles petites transmissions.